Le cri du bistouri, une émission sur la santé proposée par le collectif CHU Action Santé, animée par Hélène Cordon et Agnès Moussion.
Bonjour, le cri du bistouri, c'est 5 émissions hebdomadaires avec débat, échange, témoignage, expertise proposées par le collectif CAS CHU Action Santé qui regroupe Attaque 44, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, avec Nantes, Association de veille écologiste et citoyenne, la CGT-CHU, la FSU, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, la France Insoumise, Nantes en commun, le NPA Nantes, Saint-Herblain en commun et les Jeunes pour le Climat YFC.
En ce début d'année 2022, le système de santé français se trouve dans une situation extrêmement difficile pour les personnels et inquiétante pour les usagers. L'organisation actuelle ne répond plus aux besoins de la population. Les exemples de problèmes d'accès aux soins se multiplient, déserts médicaux, délais d'attente très longs pour certaines spécialités médicales, dépassement d'honoraires, renoncement aux soins, manque de soignants, perte de chance pour les patients. La situation est tellement dégradée qu'elle nécessite une réflexion poussée et un investissement de tous ceux qui ne souhaitent pas le passage d'une santé publique à une santé privée.
Aujourd'hui, émission numéro 1, nous vous présenterons des témoignages, entretiens, points de vue sur la santé publique, car il existe actuellement une très grande inquiétude devant l'état de délabrement et de dysfonctionnement des services de santé.
Des hôpitaux aux urgences en passant par les EHPAD, l'accès aux soins en psychiatrie ou en maternité, ou bien rien que pour trouver un médecin, tous les services sont surchargés et tout devient compliqué pour les patients.
Et parfois, en France, on meurt en 2021 par manque de médecins.
C'est ce qui est arrivé récemment à l'hôpital du Bailleul, près de la Flèche dans la Sarthe, comme le rapporte le journal Le Maine Libre dans son édition du 25 novembre. Le 1er novembre, l'absence d'un anesthésiste a eu de graves conséquences sur la prise en charge de plusieurs malades. Le plus dramatique concerne un patient chez qui une péritonite a été diagnostiquée. Son état de santé nécessitait une opération chirurgicale en urgence. Faute d'anesthésiste à ce moment-là au centre hospitalier du Bailleul, le malade a été transféré au Mans. Il y serait arrivé trop tard, en état de choc, et n'aurait pu être opéré. Le patient est décédé.
Comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé? On peut se dire que c'est un accident, que cela peut arriver, mais devant le nombre de témoignages, de grèves, de vidéos par les soignants, de tribunes de médecins, d'articles de journaux, d'émissions de radio, on comprend que non seulement ce n'est pas un accident, mais que le risque que cela se reproduise est grand. La perte de chance est réelle. Par ailleurs, un autre problème se pose, dont on parlait peu jusqu'à présent, celui du tri des malades. Philippe Bizouarn, médecin à l'hôpital Nord-Laennec, dans une tribune au Monde du 5 janvier 2022, parle du tri des malades pendant la pandémie. Nous l'avons rencontré et il nous fait part de son analyse.
Le tri est assez provocateur comme terme, j'avoue. Moi, je suis réanimateur et le terme qu'on utilise le plus souvent, nous, c'est la priorisation, c'est-à-dire qu'on peut considérer comme éligible à une réanimation lourde, hein, en fonction de la gravité de son état, la chance de survie. On ne peut pas réanimer quelqu'un dont la chance de survie est nulle, en dehors de toute problématique de ressources, en fait. Imaginons qu'on a suffisamment de lits pour tout le monde, on n'ira pas réanimer tout le monde, hein, ne serait-ce que par prudence, et on sait bien que nos thérapeutiques très lourdes de réanimation doivent être approprié à l'état du patient. Donc là, la priorisation, on dira, c'est un terme qu'on utilise assez fréquemment. On peut même imaginer, moi je travaille en réanimation de chirurgie cardiaque, des patients priorisés, c'est-à-dire opérés plus ou moins vite en fonction de la gravité de leur état. Donc on a un certain nombre de critères qui font que tel patient va l'opérer immédiatement, demain ou dans 8 jours ou dans 3 mois, parce que son état fait qu'il pourra attendre, et donc on priorisera le malade le plus urgent. Donc c'est quelque chose qui est assez banal. Alors pourquoi on a parlé de tri? Je pense que ça ressurgit pendant évidemment le fameux épisode du Covid et notamment de la première vague, parce qu'on s'est retrouvé avec un afflux de patients très important et cette notion de tri a été réutilisée. Alors évidemment, la plupart du temps, donc on priorise, c'est en maintenant un principe d'égalité quand même, hein, malgré évidemment la non prise en charge de patients, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont trop graves et qui ne pourront pas bénéficier de la réanimation. On peut imaginer, certes, quand les ressources commencent à diminuer, ce qui est le cas dans nos hôpitaux quand même depuis des dizaines d'années, avec des diminutions de lits, on sera amené à prendre des décisions, hein, avec, imaginez, deux patients identiques avec un seul lit, là, effectivement, les critères et les paramètres du tri seront très bousculés, et la subjectivité sera au cœur de nos décisions et de nos choix, et donc un dilemme moral auquel on va être confronté. Là, quand les ressources sont extrêmement diminuées, là, effectivement, les principes d'égalité ne tiennent plus bien, et notamment pendant la vague Covid, le principe sur lequel on se repose, c'était de sauver le plus de monde possible, ça c'est sûr, hein, selon un principe qu'on dit d'utilité en philosophie, avec évidemment le risque de laisser sur le carreau des patients qui auraient pu bénéficier quand même de la réa. Ça a été très peu le cas, je pense, quand même dans les hôpitaux, même si sans doute, c'est ce qui s'est passé dans l'Est pendant la première vague et aux Antilles pendant l'été dernier. La difficulté, je trouve, c'est quels paramètres utiliser quand on est face à ces dilemmes. Est-ce que les professionnels sont les seuls à pouvoir décider de ces fameux critères en fonction des lits disponibles? Est-ce que une réflexion éthique, démocratique et politique doit s'engager? Certainement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tiré les leçons de ça, on n'a pas réfléchi sur quelles étaient les ressources et le nombre de lits, par exemple, de réanimation qu'on devait ouvrir. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense, notamment pour le Covid, c'est toujours face à ces manques de ressources, notamment de lits, c'est les déprogrammations. Donc là, pour le coup, s'ils ne sont pas sur des critères très objectifs comme en réa, mais c'est au fil de l'eau, hein, on décide de déprogrammer pour éventuellement réorienter les personnels des blocs opératoires, par exemple, dans les services de réanimation. Mais là, depuis quelques mois et hors Covid, on sait que là, à l'hôpital, on déprogramme beaucoup parce qu'il manque du personnel. Et donc ces déprogrammations-là sont une forme de tri, hein, ça c'est certain, pour le coup j'utiliserai bien le mot, une sorte de tri de l'ombre comme j'avais mis dans le papier du Monde, et sur des critères pour le coup non objectifs, on décide de fermer des lits, de fermer des salles d'opération et de ne pas opérer les gens, en leur disant de revenir plus tard ou d'aller ailleurs, notamment dans le privé, qui ont les mêmes difficultés que nous en fait. Hein. Le manque de moyens conduit à prendre des décisions de cet ordre-là, hein, de prioriser des patients, de les sélectionner pour le coup, voire de prendre le premier arrivé. Et de laisser tomber le dernier arrivé. Hein, une autre manière de trier, c'est de fermer les urgences, par exemple, dans tous les petits hôpitaux de France et de Navarre où les urgences sont fermées. Ça s'appelle trier, hein, également dans un certain sens. Et comment admettre que notamment des programmations, les non-prises en charge, le non-accès aux soins, peut être considéré comme une forme de tri, finalement, hein, pour le coup, dont les paramètres ne sont pas formalisés, mais qu'on connaît, hein, c'est les précaires, c'est les déserts médicaux. Donc pour moi, c'est aussi une forme de triage, c'est-à-dire de non-accès aux soins, et voire de renoncement aux soins, parce que voilà, le patient se trie lui-même en fait, hein. Je suis trop grave, donc je vais pas aller à l'hôpital, ou je suis pas malade, bah, en tout cas je suis pas pris en charge par un médecin généraliste local, et donc je pourrais pas aller à l'hôpital. Donc ça, c'est aussi une forme de sélection, finalement, dans un certain sens, et c'est pour ça que j'insisterai sur le fait que le tri n'est pas que lié aux problématiques de réanimation comme on a pu entendre, mais c'est aussi lié aux problématiques de manque de ressources, de manque de besoins, de fuite des personnes, et une sorte de tri de l'ombre, qu'on dira, sans critères très rationnels, se font. Hein. C'est-à-dire une sorte de tri naturel, presque. Donc c'est dans ce sens-là que je voudrais élargir cette notion de tri et de triage, qui est très centrée réanimation, mais je pense qu'il déborde totalement les problématiques de la réa, en fait.
Le vrai problème, c'est la sous-capacité de l'hôpital en termes de lits, de soignants, de matériel. Rappelons que des lits ont été fermés depuis 4 ans, autour de 18 000. Ces fermetures ont été continuelles, même en 2021. Florian Vivrel, urgentiste au CHU de Nantes et syndiqué à la CGT, a écrit dans un blog avec Mediapart une chronologie de la dégradation de la situation des hôpitaux. Il nous donne des pistes d'explication.
C'est les trois piliers des CHU, en fait. Soigner, rechercher et enseigner, former. à ce moment-là, les politiques, quels que soient les gouvernements, ont pas la main sur ces dépenses. La sécurité sociale dépense. Les cotisations suivent plus ou moins et il y a des déficits qui apparaissent où l'État, pour le coup, est obligé de compenser. On arrive dans les années 80 et en 83, il y a un virage qui est fait, vraiment assumé, qui est de vouloir diminuer les dépenses de santé. Donc à ce moment-là, une des premières idées, c'est de diminuer le nombre de médecins pour diminuer les dépenses. Et c'est ce qu'on se prend de plein fouet aujourd'hui, 40 ans plus tard, avec les déserts médicaux. On a eu dans les années 90 un effondrement du numerus clausus. Bon, le numerus clausus est mis en place en 71 dans une idée déjà de contrôler les dépenses de santé, parce qu'il y avait énormément d'inscriptions en médecine. Donc on parle un peu de l'âge d'or des hôpitaux dans les années 80, parce qu'effectivement il n'y avait pas de limite. En termes de durée de séjour, on n'était pas soumis à une rentabilité, on travaillait bien, on avait le temps de soigner. Et par rapport à aujourd'hui, bon, bah, il n'y avait pas la vague démographique, le papy-boom, donc c'était pas les mêmes conditions. Mais il y avait le financement de la sécurité sociale n'était pas le même et permettait de dépasser. Finalement, les dépenses, elles étaient adaptées aux besoins. Aujourd'hui, les dépenses, elles sont adaptées aux recettes. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive plus. Donc il y a eu la mise en place de la T2A par le gouvernement sous le deuxième quinquennat de Chirac de 2003 à 2007. C'est-à-dire qu'on essaie de savoir comment les hôpitaux font des soins. Combien une infirmière va mettre de temps pour poser une perfusion? Combien elle va mettre de temps pour faire un ECG? Combien va coûter la prise en charge d'une appendicite? Et donc, à l'issue de 20 ans de préparation, est appliquée durant 4 années de transition la tarification à l'acte, la T2A. Et à ce moment-là, certains soignants dénonçaient déjà une marchandisation des patients. C'est-à-dire qu'auparavant, les services fonctionnaient de manière forfaitaire. Ils avaient une enveloppe annuelle qu'ils essayaient plus ou moins de respecter. Quand on met en place la T2A, on dit ben, un ECG, c'est 12 euros. Une consultation chez un médecin généraliste, c'est 23 euros. Ces actes, ils ont une valeur qui est fixée par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Et finalement, quand on regarde de plus près, la valeur des actes, elle dépend pas des besoins. Elle dépend des fonds à disposition. Quand il y a eu la loi HPST qui transformait les hôpitaux en entreprises sous le gouvernement Sarkozy avec Roselyne Bachelot à ce moment-là, l'idée d'HPST, c'était de responsabiliser les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils devenaient propriétaires de leurs hôpitaux, de leurs murs, et responsables des investissements. Donc à ce moment-là, on a eu des hôpitaux qui ont commencé à être déficitaires. C'était plus la sécurité sociale qui était déficitaire, ça a été les hôpitaux. 30 milliards d'euros hein, de dettes cumulées, et puis un déficit annuel de 1,5 milliard en 2019. Donc pour moi, je dirais qu'il y a ces trois étapes clés, la mise en place de l'ONDAM, la T2A, HPST, qu'ont permis à l'État d'entièrement maîtriser les dépenses de santé, de niveler à sa guise la valeur des actes, et des diagnostics, et les hôpitaux étaient responsabilisés en termes d'entreprise. Et depuis, c'est une descente aux enfers.
Descente aux enfers, les mots sont forts, hein. Ils correspondent à une réalité vécue par les personnels. L'hôpital de Nantes, c'est environ 11 000 salariés, donc de nombreuses personnes concernées. Écoutons deux personnalités expertes en matière de santé.
Dans l'émission Les Matins de France Culture, le 7 décembre dernier, Jean-Luc Jouve, chirurgien pédiatre, président de la commission médicale de l'APHM, les hôpitaux de Marseille, répond à la question « Avez-vous vu des choses changer depuis la crise du Covid ?» Nous avons repris une partie de sa réponse, lue par Mathieu Richard.
Le problème, c'est que sur le terrain, on n'a pas vu les choses changer. On n'a pas tiré d'enseignement d'une crise sur l'autre. Les moyens sont toujours mis à disposition au lance-pierre à base de CDD et de recrutement. On a l'impression que les vagues se succèdent et qu'on redécouvre le Covid à chaque fois. Ce qui touche les soignants, c'est la résignation, ce n'est pas la révolte.
Dans cette même émission, Michèle Lévy-Soussan, médecin, animatrice de la cellule de support éthique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Sorbonne Université, est interrogée sur les raisons du manque de personnel dans les hôpitaux. Là encore, c'est une partie de son texte. L'enregistrement a été réalisé avec la voix de Martine Riquier.
Il y a une très grave crise des vocations. On voit bien le décalage énorme entre une gestion comptable, administrative, avec des structures énormes, où l'on déplace un soignant du jour au lendemain à des horaires incompatibles avec une vie de famille. Le cœur du métier, le soin, demande une attention, une humanité, une disponibilité pour l'accueil. On a fait comme si l'on était un grand plateau technique. Mais l'essentiel, c'est le soin. Pouvoir répondre à l'appel d'une sonnette, entendre la souffrance d'une famille et ses questions. On a construit des structures qui nous déconnectent des réalités de terrain.
Après avoir entendu certaines des difficultés dans l'organisation de la santé, Béatrice Perron-Souba, infirmière en psychiatrie, nous parle de son quotidien. Elle évoque la notion de perte de chance, que nous avons malheureusement illustrée avec le décès survenu à l'hôpital de Bailleul. L'infirmière parle aussi de la plateforme Hublot, mise en place à l'hôpital de Nantes, sur laquelle les personnels de l'hôpital s'inscrivent en dehors de leur temps de travail quotidien pour remplacer leurs collègues absents, ce qui génère encore plus de fatigue pour eux.
Si je viens témoigner aujourd'hui, c'est pour surtout mettre en avant les pertes de chance pour nos patients, puisqu'on est directement impacté par le manque d'effectifs, le manque de temps, la menace de fermeture de lits. Donc ça vient nous atteindre véritablement dans nos valeurs professionnelles. Quand je dis une perte de chance, du fait des problèmes d'effectifs, la base du travail en psychiatrie, c'est la relation. La relation et le temps passé auprès des patients. Et là, aujourd'hui, avec les problèmes d'effectifs, on n'a plus de temps. On court partout, pour tout. Et les patients nous arrêtent dans les couloirs. Et on court partout, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'est pas en nombre, parce qu'on est pris par les démarches administratives, ça c'est infernal, par la recherche de matériel. Quand je dis la recherche de matériel, c'est pas non plus du matériel extraordinaire, c'est des pyjamas, c'est des couvertures. C'est des traitements basiques. Et puis, le fait de ne pas être en nombre fait que si, par contre, dans un service, il y a une difficulté, puisqu'on travaille en psychiatrie, parfois, il peut y avoir des moments un peu compliqués avec un patient, donc on fait appel aux différents collègues dans ces moments-là, des différents services. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on se retrouve plus qu'à deux pour gérer 29 patients. On est amené aussi régulièrement à rencontrer, enfin à avoir beaucoup de patients de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est-à-dire que on est répartis en secteurs sur l'agglomération nantaise. Nos capacités d'accueil sont déjà pas suffisantes au regard de la population grandissante de la ville de Nantes. Mais en plus de ça, avec les fermetures de lits qui ont eu lieu sur le département ou sur la région, eh bien, on accueille aussi des patients qui viennent de villes extérieures, comme Rennes, comme Le Mans, comme Cholet, comme La Roche-sur-Yon. Ce qui veut dire que ces patients-là, quand ils sont accueillis chez nous, eh bien, sont éloignés de leur lieu de vie, de leur famille, de leur environnement quotidien. Donc, c'est aussi quelque chose qui est compliqué pour les patients. Nous, on fait du mieux qu'on peut, hein, c'est pas la question. Mais malgré tout, on peut pas travailler de la même manière pour ces patients-là, parce qu'on ne connaît pas les réseaux existants sur les villes. Alors, on va les chercher, mais du coup, ça nous demande beaucoup plus de temps dans la recherche aussi, et là encore, moins de temps pour les patients. On fait beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties, parfois avec des patients qui n'ont pas forcément de domicile à la sortie. Ça, c'est de plus en plus aussi, ce qui nous pose un gros problème, parce qu'effectivement, le dispositif social ne répond pas non plus à la population qu'on rencontre aujourd'hui. Donc oui, on traite, mais pour aller vers quoi derrière, c'est pas forcément aussi simple que ça pour nous non plus, de savoir que on va les envoyer vers le 115. Donc c'est tout ça qui fait que ça vient nous atteindre, sans parler effectivement des problèmes d'effectifs qui ont des répercussions sur notre vie personnelle.
Donc on retrouve une certaine concordance entre le témoignage de Béatrice Perron-Souba et de Michel Lévy-Soussan sur la non-prise en compte de la vie personnelle des soignants. Florian Vivrel a donné des choix politiques avec des dates qui permettent de comprendre l'enchaînement des événements. Cependant, nous n'avons pas la compréhension de pourquoi ces choix politiques ont été mis en place. Agnès, est-ce que tu as des explications à ce phénomène ?
Il est intéressant de lire les archives de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, créée en 1961, donc 60 ans en 2021, et dont le rôle est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde. Sur le papier, cela sonne bien, le bien-être économique et social. Mais l'OCDE est quand même considéré comme un véritable bureau d'études des pays industrialisés qui propage la doctrine libérale, selon Raoul Marc Génard, auteur de « L'Europe, la trahison des élites » et membre du conseil scientifique d'Attac. Et je cite un article du Figaro qui titrait en 2018 « Quand l'OCDE inspire les réformes d'Emmanuel Macron », qui se montre un élève consciencieux du FMI, de l'OCDE et de la Commission européenne, en suivant parfaitement leurs recommandations libérales en matière économique. Donc oui, les conseils de l'OCDE sont d'inspiration néolibérale.
Et qu'est-ce qui ressort de ces nombreux rapports ?
Par exemple, le rapport annuel 2001, page 44, la santé. Ce rapport explique que les systèmes de soins revêtent une importance cruciale pour les économies des pays de l'OCDE. Être en bonne santé est indispensable pour s'épanouir dans tous les domaines, dans la vie familiale et professionnelle, mais aussi en tant que citoyen et consommateur. La santé est par ailleurs un poste budgétaire important, puisqu'elle représente en moyenne 12% des dépenses publiques et que le vieillissement démographique se traduira vraisemblablement par une augmentation de la demande de soins. Des économies considérables pourraient cependant être réalisées grâce à une meilleure efficacité des systèmes de santé. C'est le point de vue de l'OCDE et des économistes libéraux ou néolibéraux. Mais quelle signification peut-on donner à la phrase « s'épanouir dans tous les domaines, surtout en tant que consommateur ».
Et on retrouve aussi dans ces rapports les termes de bonne gouvernance, efficacité et efficience des systèmes de santé. Ce ne sont pas vraiment des termes que les citoyens associent forcément à la santé. Et qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors, gouvernance, c'est beaucoup de management d'entreprise. Les services de santé, considérés comme une entreprise, doivent être rentables, c'est-à-dire dégager du bénéfice. L'efficacité fait appel au temps passé au travail et l'efficience au gain de temps par rapport à ce qui était prévu. Donc, un exemple, on est efficace quand on a 2 heures pour faire un travail. Si on le fait en 2 heures, c'est efficace. Si on met 1h45, eh bien, c'est efficient. On a consommé moins de ressources humaines que prévu. L'OCDE a par ailleurs entamé la collecte de statistiques sur l'assurance médicale privée afin de compléter l'analyse de la contribution de ce secteur privé à l'économie de la santé. La synthèse de l'OCDE, datée de 2017 à partir d'informations antérieures, intitulée « Lutter contre le gaspillage dans les systèmes de santé », présente un système de santé français dans un état de délabrement qui, objectivement, fait peur. Gaspillage, fraude, abus, corruption. Et donc, l'OCDE propose des solutions, dont le paiement à l'acte. Et je cite « Arrêter les activités qui n'apportent pas de valeur ajoutée et changer d'approche quand il existe une autre solution, meilleur marché et tout aussi bénéfique pour le patient ».
Alors, on peut parler de politique de santé libérale ?
Oui, assez clairement.
Mais est-ce que finalement, cela pose vraiment un problème ?
Oui, quand il n'y a pas adhésion de la population. Alternative économique présente un résumé d'un livre de Bruno Amable, « La résistible ascension du néolibéralisme, modernisation capitaliste et crise politique en France » de 1980 à 2020. Je cite « Le discours général qui tourne en boucle depuis 40 ans est que le modèle français est désuet, qu'il faut transformer le pays, que la mutation passerait par des réformes nécessaires, que les gouvernements n'auraient pas assez de courage pour le faire. Bruno Amable déconstruit cette analyse en montrant que les politiques libérales ou néolibérales ont bien été mises en œuvre depuis 40 ans, mais que chaque gouvernement peine à trouver une majorité pour soutenir ces politiques néolibérales. Le problème est là, la marche vers la privatisation de la santé, tous les gouvernements l'ont mise en œuvre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais sans le dire clairement aux Français. Et aujourd'hui, les Français découvrent, l'état de délabrement de leur santé et la situation est extrêmement grave.
Merci Agnès pour ces explications. On va à présent faire une petite pause musicale avec le titre Jimmy du groupe Moriarty. C'était Jimmy par le groupe Moriarty. Pour revenir à notre sujet, nous allons continuer avec un témoignage d'Olivier Terrien, délégué CGT au CHU de Nantes, qui nous décrit sa vision de la situation de l'hôpital actuellement.
Si on veut faire un état des lieux un petit peu de la santé aujourd'hui d'une manière générale,
On est dans une politique restrictive puisqu'on continue à fermer des lits malgré les annonces qui sont faites. Dernièrement, un document de l'Agence régionale de santé qui fait l'état des lieux des fermetures de lits sur la région sur les 5 dernières années, et on a supprimé plus de 850 lits sur notre territoire Pays de la Loire. On a un afflux important ces derniers mois de personnes qui viennent aux urgences, qui restent sur des brancards jusqu'à 72 heures parce qu'on n'a pas de lits pour pouvoir les hospitaliser. Dire qu'on va fermer des lits pour fermer des lits, c'est quelque chose qui n'est plus du tout populaire. Ça ne passe plus, surtout avec la crise aujourd'hui. Donc toutes les politiques qui sont menées, elles sont menées de façon à faire en sorte qu'on ne rende plus attractif l'hôpital public et surtout qu'on ne fidélise plus les professionnels pour faire en sorte qu'on crée la pénurie et comme ça on ferme des lits. Et le motif des fermetures de lits aujourd'hui, c'est de dire c'est pas de notre faute, on ferme des lits, c'est parce qu'on trouve plus de professionnels. En termes de formation, par exemple, on a des professionnels qui veulent bénéficier d'une promotion professionnelle pour devenir soit infirmier ou soit aide-soignant, et on leur refuse la promotion professionnelle. Enfin, le meilleur des exemples, c'est qu'au dernier comité technique d'établissement, on nous fait voter une enveloppe d'1 million d'euros dans le cadre de la formation. Alors, ce sont des cotisations des professionnels qui doivent servir à la formation. 1 million d'euros pour investir dans du matériel de formation. Non, mais ce n'est pas la préoccupation aujourd'hui. La préoccupation, c'est de former des professionnels pour les mettre au pied des lits des patients. On ne trouve plus d'infirmières, on ne trouve plus d'aides-soignantes. Donc on est en train d'organiser la pénurie de professionnels pour continuer à fermer des lits. Deuxième élément, c'est les conditions de travail. Elles font que les professionnels finissent par débarquer l'hôpital public. Ils finissent par abandonner et s'en aller. Parce que leur conviction qui est de prodiguer des soins de qualité dans la sécurité, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, que ce soit pour les patients comme les professionnels, on est dans l'insécurité. Comment on peut expliquer qu'après 9 heures de travail, on soit opérationnel pour aller jusqu'à 12 heures de travail? Ça, et particulièrement dans des services critiques comme la réanimation. Le fait qu'on ne trouve plus de professionnels, le fait qu'on ferme des lits, les délais de prise en charge se rallongent avec une perte de chance pour le patient. Alors des femmes qui sont enceintes vont s'inscrire soit dans les cliniques ou vont s'inscrire à l'hôpital public. Elles arrivent à la porte de l'hôpital public en disant « voilà, je vais accoucher à telle date, je viens m'inscrire ». Et on leur dit « non, vous ne pouvez pas vous inscrire ». Voilà, on refuse l'accès à l'hôpital public. Donc de fait, on les renvoie vers les cliniques privées. Et lorsqu'elles vont vers les cliniques privées, qu'elles sont inscrites, eh bien elles se voient facturer un dépassement d'honoraires avec une facturation de chambre seule également. La situation de l'accès aux soins, elle s'aggrave. Elle s'aggrave. Et particulièrement pour les gens les plus précaires qui, eux, vont renoncer de fait aux soins puisqu'ils n'auront pas les moyens d'aller dans le privé. Donc si on leur ferme la porte à l'hôpital public, ils ne pourront pas aller se soigner dans les cliniques privées. Eh bien, on va laisser une partie de la population crever parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est un service public digne de ce nom, avec les moyens, pour qu'on puisse prendre en charge toute la population.
En appui au témoignage d'Olivier Therrien, il faudrait citer la revue Pratique, née en 1975, dont l'objectif est d'essayer de repérer, décrypter et analyser les différentes dynamiques à l'œuvre dans les questions de soins et de santé. Le dernier numéro, le 95, porte sur le patient face au système de soins. Et à titre d'exemple, il parle de la santé dans le monde d'après, ou de l'enfance maltraitée, société en danger, ou de la marchandisation des corps. Une revue particulièrement intéressante pour qui s'intéresse aux problématiques de santé.
Après le témoignage d'Olivier Therrien, qui nous livre une description un peu apocalyptique de l'hôpital, nous allons écouter Patricia Biraud, aide-soignante du pôle médecine physique et réadaptation, MPR, qui dispose d'un nouveau matériel balnéo.
Il y a énormément d'arrêts de travail des soignants. Comme il n'y a pas de... on ne trouve pas... de personnel, on ne peut pas recruter, eh bien la solution est de fermer des lits. Actuellement, il y a une semaine, sur le service, ce qu'on appelle locomoteur, enfin, où c'est particulièrement des patients avec des pathologies traumatologiques, prothèses de genoux, etc., on a fermé 15 lits sur 30. Donc pareil, les kinés sont déployés de façon à auto-remplacer, à s'auto-remplacer sur les vacances, sur les arrêts, etc. On a une organisation à la balnéo où on entend bien qu'il faut une certaine rentabilité, qu'il faut que la balnéo tourne. Que comme c'est un nouveau bâtiment, voilà, il faut exploiter cette nouvelle piscine dans un temps donné. Donc notre planification, par exemple, je donne un exemple, on a des patients, quand on les reçoit, ils arrivent à la balnéo préparés. Et nous, quand ils ont fait leur séance, après on doit les habiller parce qu'on a d'autres groupes à côté en même temps. Eh bien, on nous demande de préparer le patient à l'aller et au retour. Sur un quart d'heure, il faut l'habiller, c'est-à-dire le déshabiller, mettre son maillot de bain, le transférer dans une chaise, le mettre... voilà. Pendant ce temps, un autre groupe sort, il est dans les vestiaires, mais on ne peut pas les surveiller puisque nous sommes dans un box fermé. Il faudrait aussi être près de la balnéo pour surveiller. Et ça, on n'est que deux aides-soignantes. On aime ce qu'on fait, on aime notre travail. Mais plus ça va, plus on nous en demande. Il y a des arrêts qui ne sont pas remplacés. On nous demande toujours de changer notre planning. Parfois, on nous fait sauter nos récupérations. On n'a plus de vie de famille. On est démotivé. Enfin, on a l'air d'être des robots. Il n'y a même pas de reconnaissance. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail. Et quand on demande ce qui se passe ou ce qu'ils ont, on nous dit burn-out, quoi.
Du point de vue des managers aussi, la situation a évolué au fil des années. Charline Cordon a travaillé toute sa carrière dans un petit hôpital de campagne, d'abord en tant qu'infirmière, puis comme cadre aux urgences. Elle a dû faire le lien entre le discours financier de la direction et la volonté de soigner de ses équipes. À la retraite depuis 6 mois, elle fait le point sur les changements qui ont marqué ses années de travail.
La première transformation à l'hôpital, qui était en 2002, qui était pourtant un changement sociétal qui était à l'avantage des soignants, c'était la mise en place des 35 heures, qui était plutôt en soi une bonne loi, mais qui a commencé à dérégler un peu notre fonctionnement, puisque en fait les agents ont travaillé moins bien sûr, ce qui était bien, mais par contre les embauches n'ont pas suivi pour remplacer les heures perdues. Et là je pense qu'on a commencé à sentir des difficultés au niveau en tout cas des temps de travail et des soignants qui ont commencé à faire des heures supplémentaires. Le deuxième gros changement, alors qui cette fois nous a vraiment bousculé dans notre fonctionnement, c'est ce qu'on a appelé la T2A, qui s'appelle la tarification activité. Et là, c'était vraiment un changement qui a perturbé vraiment les soignants, puisque là, on le demandait de produire pour gagner de l'argent. C'est pas que les soignants n'avaient pas connaissance du fait que il fallait être économe, que l'argent était précieux à l'hôpital. Mais là, cette fois, on a commencé à compter et à vouloir rentabiliser. Et c'est pas du tout la culture soignante. Et moi, à cette époque-là, où je commençais dans mes fonctions de cadre de santé, on a dû, nous aussi, les cadres, commencer à parler finance avec les soignants, ce qui était très éloigné de leur culture. Et là, on a vraiment vu un changement dans notre fonctionnement. Nous, on se retrouvait en tant que cadre un peu coincés entre les équipes qui restaient dans leur esprit soignant, quoi que ça coûte, et la direction qui, sans arrêt, nous faisait des rappels à l'ordre. Alors, la tarification à l'acte, il y a un biais qui est très, très gênant, c'est que, par exemple, pour chaque pathologie, il y a une durée de soins. Si le patient reste trop longtemps, l'hôpital travaille certains jours pour rien. Alors, nous, on voulait nous forcer à ce que la durée de séjour colle complètement à ce qui était écrit, sauf que chaque patient est différent, donc ça c'est un exemple. Et on était vraiment dans un discours versant direction où on était vraiment centré sur le financier, et alors que les soignants restaient, eux, avec leurs valeurs soignantes. Et on nous demandait d'instaurer cette culture auprès des soignants. Alors petit à petit, ils ont fini par comprendre que la survie de notre hôpital, parce que nous on était un petit hôpital, on a souvent été menacés de fermeture. Et du coup, ils ont compris que la survie de l'hôpital tenait à ça. Donc malgré tout, ils ont fait des efforts dans ce sens-là, en essayant de comprendre cette culture déjà, et de faire au mieux parce que c'était aussi la survie de l'hôpital. Mais n'empêche que ça entrait en conflit avec leurs valeurs. Alors oui, il y a eu des choses positives. Il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, comme tout ce qui est la gestion de la qualité des soins, la lutte contre les infections nosocomiales. Pour les patients, on a mis des choses en place qui sont bien et dans laquelle les soignants veulent aller et participent. Alors par contre, je pense qu'il y a des choses qu'on a mis en place mais qui ont dérivé au bout d'un moment. Par exemple, sur la qualité des soins, Il y a eu toute la mise en place des certifications. Au tout départ, ce sont des soignants qui se sont investis dans ces sujets-là. Et on était dans une réflexion, telle chose, on l'a toujours fait comme ça, ça marche pas très très bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et puis sont arrivées les certifications et on a vu apparaître, par exemple dans les magazines, des classements d'hôpitaux. Et là, ça, on est entré dans une espèce de compétition où en fait, c'était à qui va rendre le dossier le mieux rempli. Donc on a mis des ingénieurs qualité à travailler là-dessus et on a enlevé aux soignants le cœur de leur métier où ils savaient très bien ce qui allait pas et comment ils pouvaient améliorer les choses. Et c'est dommage parce que moi, j'ai toujours vu des soignants qui avaient envie de soigner bien les gens, de bien les accueillir. Là où je me suis toujours retrouvée, c'est que des soignants à qui on prend le temps d'expliquer les choses, dès qu'on les met en projet pour une amélioration, ils sont là. On l'a vu là avec cette pandémie. Ils se sont mobilisés, ils ont changé leur façon de travailler. Donc au tout début de la crise du Covid, au niveau des équipes soignantes, on a vite senti que c'était quelque chose qui était grave, qui était potentiellement dangereux et pour les patients et pour nous les soignants. Très vite s'est posée la question des équipements, parce qu'à la fois on nous disait c'est dangereux. Alors moi, quelque chose qui m'a marqué, on nous a donné par exemple les masques au compte-gouttes et on m'a demandé, moi en tant que cadre, de les garder sous clé dans mon bureau. Et en fait, j'en avais et on n'autorisait pas les donner aux soignants. Alors ça, pour moi, ça a été insupportable. Et j'avoue que là, je suis passée outre les ordres de la direction. Je n'ai pas pu continuer à voir les soignants pleurer parce qu'ils avaient peur. Donc moi, je leur ai donné des masques avant qu'on ait l'ordre de les donner, avec le risque un jour d'être en rupture. Mais ça, c'est quelque chose qui a vraiment été marquant. Ça n'a pas duré très longtemps. Très vite, on a compris qu'il fallait que les soignants soient équipés. Et vraiment, on leur a fourni ce qu'il fallait. Après, il a fallu s'adapter tous les jours. Moi, en tant que cadre, tous les soirs à 17h, il tombait de nouvelles consignes qu'il fallait mettre en application. Et puis, petit à petit, on a eu une meilleure connaissance de ce virus. Et puis, finalement, c'est devenu le quotidien. Il a fallu travailler avec. Et à nouveau, j'ai été émerveillée de voir la capacité qu'avaient les soignants de s'adapter. Ils ont une capacité à rebondir et toujours dans un esprit de se dire les gens qui viennent nous voir, ils ont besoin de nous, on va faire au mieux pour eux. Il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que les conditions se sont dégradées, donc les patients sont devenus plus irritables. Par contre, un patient qui leur montre qu'il est satisfait, qui dit un merci, qui leur donne un sourire, il faut voir la pêche que ça leur donne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas leur enlever.
Un autre univers de la santé, celui des EHPAD. Céline Chéhu, aide-soignante en gérontologie, commission exécutive de la CGT, travaille à Carquefou et nous présente son quotidien.
Je suis dans un établissement à Carquefou, à la CRA. C'est un EHPAD, normalement, qui accueille des gens, des résidents plus ou moins autonomes. Mais normalement, on devrait avoir des résidents quand même avec un degré de dépendance pas trop élevé. Sauf que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a des grilles, de dépendance à remplir. Et moi, j'ai fait le calcul sur les 107 résidents recensés que j'ai fait. Nous avons une grosse majorité, même à 90% de gens dépendants entièrement ou pratiquement entièrement. Donc du coup, la prise en charge n'est pas la même. Le manque de personnel fait qu'on est sur des soins rapides et efficaces plutôt que de prendre le temps avec des personnes âgées dépendantes. On nous demande de faire de l'auto-remplacement, mais sauf que là, l'après-Covid des 2 ans, les titulaires sont très très fatigués. Du coup, on est en train de faire des formations de 70 heures pour les ASH pour qu'elles puissent faire fonction d'aide-soignante pour remplacer le manque de personnel. Sauf qu'elles ne sont pas formées aux soins et ça peut être dangereux pour les résidents. Les plannings sont modifiés sans respecter les protocoles de délai. On rappelle le personnel sur des temps de repos. On nous demande de rappeler nos collègues, on fait le boulot de cadre. On nous impose des règles de l'hôpital qui ne sont pas des règles du gouvernement, notamment sur les congés d'été, où on nous dit qu'il faut qu'on pose que 15 jours parce qu'ils vont avoir du mal à remplacer. Sauf que dans la loi, c'est 21 jours consécutifs. Et effectivement, l'après-Covid fait que là, avec l'épuisement du personnel, les 21 jours sont nécessaires pour tout le monde. Parce que là, les équipes sont très, très fatiguées. Nous, on le ressent au quotidien. En gérontologie, il y a un gros impact sur la personne âgée, puisque déjà qu'elles sont très tristes, puisque les visites sont très limitées. On accentue l'isolement de la personne âgée. Et du coup, les personnes âgées, elles s'en prennent un qui au personnel soignant en première ligne, puisqu'elles n'ont pas d'interlocuteur pour pouvoir parler de leur mal-être. Donc du coup, ça crée des tensions, ça crée de l'agressivité. Entre les résidents, entre le résident et le personnel, entre les différents corps de métier, puisque les aides-soignantes font du boulot d'ASH, les ASH font du travail d'aides-soignantes, les infirmiers sont en sous-EF depuis presque 6 mois, en tout cas pour la CRS. Donc du coup, erreur médicale, erreur de traitement, c'est juste pas possible, quoi.
À présent, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec les Rita Mitsouko et leur chanson Marcia Baila.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Et comme l'hôpital, ce n'est pas que le soin direct aux patients, pour finir notre tour d'horizon, nous allons écouter un dernier témoignage avec un autre point de vue, celui de Valérie, qui travaille dans les cuisines de l'Hôtel Dieu.
Depuis que je suis rentrée, donc, les conditions de travail se sont beaucoup dégradées. Le personnel qui est en arrêt maladie de courte durée, mais qui est prolongé, n'est pas remplacé. Donc ça engendre beaucoup de tensions. Les tensions, ils se traduisent par l'énervement des personnes, l'agressivité. Et là, en ce moment, dans les cuisines, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de travail. Le seul problème, c'est que les gens font le travail des gens qui sont absents. Mais ça court. Et les gens ne font pas attention. Et ce qui fait que ils s'usent. Ils s'usent autant moralement que physiquement. Mais les agents des cuisines sont quand même des agents qui sont, comme tout le personnel du CHU, volontaires et tout. Et ils veulent que ça marche. Mais le seul problème, c'est qu'ils sont usés. S'il n'y a pas assez de personnel, les repas ne peuvent pas être faits correctement. Parce que c'est une chaîne. S'il manque, mettons, deux personnes à la chaîne, c'est très dur de pouvoir faire cette chaîne. Quand il manque, mettons, trois ou quatre personnes la même journée, soit ils ferment un self, mais en général, c'est les malades qui sont prioritaires.
Nous arrivons presque au terme de cette émission et quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout ce qui vient d'être dit ? Malheureusement, ce n'est pas très positif. Le gouvernement vient de décider de faire payer les urgences aux personnes qui se présentent aux urgences et qui ne seront pas hospitalisées par la suite. Le ministre de la Santé affirme que tout est affaire de personnel, qu'on ne trouve pas, mais les causes des problèmes de santé sont multiples. On peut citer le numerus clausus qui a engendré moins de médecins, on peut citer l'évolution du mode de vie, les conséquences du 35 heures, le management des hôpitaux devenus des entreprises, la demande permanente de l'efficience, tout cela engendre de la souffrance au travail. Ce qui est certain, c'est le malaise des soignants et de tous les personnels, ainsi que le risque pour les patients de perte de chance ou bien de ne pas être soignés correctement. Certains publics, notamment les personnes en grande précarité, ont accès à l'hôpital d'une manière dégradée. Les établissements de soins privés se multiplient, gagnent beaucoup d'argent en concentrant leurs activités sur les soins et opérations rentables.
Quel avenir pour la santé publique ? Eh bien, cet avenir reste à écrire avec tous les élus, les citoyens et les professionnels de santé. Beaucoup d'initiatives novatrices sont mises en œuvre sur le territoire. On pourrait s'inspirer de l'exemple des centres de santé communautaires qui sont portés par des initiatives de collectivités territoriales ou d'associations. Ça traduit l'émergence d'un modèle nouveau qui s'inscrit dans des démarches en santé communautaire. Ces centres de santé permettent de créer une offre de soins sur des territoires sous tension au regard de la démographie médicale. Également, ils cherchent à construire des réponses adaptées aux situations vécues dans des quartiers populaires et à soutenir d'autres voies de production de la santé que le curatif. Un article que vous pouvez retrouver sur le site du SMG, le syndicat de la médecine générale, propose une réflexion sur un changement radical dans l'organisation du système de santé qui peut aider les citoyens à questionner les politiques publiques.
Un CHU sur une île, un contexte particulier à Nantes. Le système de santé mis en place à Nantes est le même dans toute la ville de France, c'est-à-dire un pôle technique public très pointu qui côtoie le développement de la médecine privée. La rentabilité et l'efficience de celle-ci est très visible dans les bâtiments et dans les moyens financiers, dont la sécurité sociale, dont elle dispose. Les hôpitaux français sont considérés comme devant être rentables, efficaces et efficients. Pour cela, ils sont passés d'une logique de stock à une logique de flux. Les flux sont les malades, il reste peu dans les locaux, c'est le développement de l'ambulatoire. Les flux sont des traitements que l'on ne stocke pas et dont les soignants manquent. Cette organisation pose problème et ne fonctionne pas bien comme le montrent les témoignages des soignants. Les soins aux patients ne peuvent pas toujours être programmés, un AVC ne se connaît pas à l'avance, un accident non plus, pas plus qu'une pandémie. La notion de flux et de rentabilité représente un danger pour les patients et pour les soignants de l'hôpital public. Voilà pour le contexte général. À Nantes, nous avons en plus une problématique spécifique avec l'idée de vouloir mettre un CHU sur une île inondable et enclavée.
Aujourd'hui, nous allons entendre Olivier Therrien, délégué CGT au CHU de Nantes, qui nous donne son point de vue plutôt politique sur la question.
Alors sur le déplacement du CHU, il y a plusieurs raisons dedans. La première, elle découle d'une politique nationale, puisque toutes les constructions en France, les nouvelles constructions, elles sont conditionnées à la diminution de l'offre de soins publics. Après, le deuxième point, cette politique, avec le projet Île de Nantes, elle est cautionnée et accompagnée par nos politiques en locaux. Premièrement par Jean-Marc Ayrault et deuxièmement par Johanna Roland, puisqu'ils acceptent le fait d'enclaver cet hôpital public sur un terrain qui représente tout juste 10 hectares. Donc voilà, donc ils sont complices de cette réduction d'offre de soins publics. Et puis après, il y a les égos de chacun, les égos politiques, que ce soit de Jean-Marc Ayrault ou de Johanna Roland. Ils sont partis sur un projet qui est complètement sous-dimensionné, sur un terrain qui est enclavé, mais ils veulent voir cet hôpital public installé à cet endroit. Et ils ne veulent pas revenir sur cette décision et sur cette position. Pour revenir au projet, en conseil de surveillance, quand j'ai pu, je les ai interrogés de nombreuses fois, mais quand on pose la question, parce que le projet nous avait été vendu sur le fait qu'il fallait des chambres seules et il fallait un site unique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient, puisque dans les annonces qui ont été faites en juin, il va y avoir 56 lits supplémentaires sur l'île de Nantes, mais ça va être des chambres qui vont être doublées. Donc l'histoire de la chambre seule ne tient plus. Et le deuxième élément qui motivait, soi-disant, cette nouvelle construction, c'était le fait d'avoir un site unique. Quand on interroge, particulièrement quand moi j'interroge au conseil de surveillance Mme Johanna Roland, sur l'histoire de cet enclavement, sur l'histoire de besoin de développer l'hôpital public, on me dit il y a du foncier qui est réservé pour l'hôpital public du côté de Chantenay. Donc ça veut dire que si on reconstruit ailleurs même que l'île de Nantes, on va repartir sur de l'intercite. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tient la route. Et ils vont même beaucoup plus loin, puisqu'au conseil de surveillance du mois d'octobre, ils nous ont fait voter la vente de terrain sur l'hôpital Nord. Donc déjà, ils organisent le boycottage d'un éventuel second plan.
Voilà donc pour le CHU sur l'île de Nantes. Nous nous retrouverons, comme je le disais, lors d'une autre émission pour parler du coût spécifique à l'implantation sur l'île de Nantes de ce CHU et donc du financement spécifique qui va avec cette installation.
Et voilà, c'est la fin de cette première émission autour de la santé. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cri du Bistouri. À bientôt.